Les grandes heures de la France par Octave Aubry. Chapitre 5e. La France en refait. Charles VII le bien servi. Jeanne morte est plus redoutable aux Anglais qu'elle ne l'était vivante. Une rancune, une haine profonde, anime désormais contre eux non seulement le peuple, mais les bourgeois, les nobles. Tout maintenant va tourner à leur désavantage. Les compagnons de la Pucelle reprennent la guerre, mordent de plus en plus avant dans les possessions anglaises, la Hire, Xaintrailles en Île-de-France, Barbe en Champagne, Dunois en Orléanais. Les paysans de Normandie se révoltent. Philippe le Bon, prince vaniteux, sensuel, au fond assez faible, est là des hauteurs, des exigences anglaises. Ces tisserands de Flandre rencontrent à présent la concurrence des tisserands d'Outre-Manche. Ils s'en irritent, inclinent à la paix. Une grande assemblée se réunit enfin à Arras pour en traiter. La chrétienté entière y envoyait des représentants. Le duc de Bourgogne et le cardinal de Winchester, Coudoir, Richemont, les ambassadeurs du pape, de l'empereur, de presque tous les rois de l'Europe. Charles offre aux Anglais en toute souveraineté la Normandie et l'Aquitaine. Ils refusent, veulent s'en tenir au traité de Troyes. Bientôt ils quittent Arras. Le duc de Bourgogne, tout en se rapprochant des Français, impose de dures conditions. Le roi devra demander pardon pour l'assassinat de Jean sans peur. Le duc, délivré de l'hommage féodal, deviendra souverain indépendant. Charles accepte tout, parce qu'accepter le fait vraiment roi. Nous sommes en 1435. Dès lors, les Anglais sont perdus. Le pays de Dieppe se soulève. Paris ouvre ses portes à Richemont. Charles VII y entre en triomphe. Après une trêve de 4 ans, la reconquête se poursuit. La Normandie est délivrée par la bataille de Formigny, la Guyenne par la bataille de Castillon. En 1453, date de la prise de Constantinople, les guerres de Cent Ans sont terminées. L'Angleterre ne conserve plus en France que Calais. Charles VII, dans l'adversité si flottant, parfois si pleutre, dans la victoire, retrouve le génie capétien. Amendé par l'âge et par le succès, il s'attelle avec patience, encore que sans fracas, à la tâche de nettoyer et recomposer le royaume. L'ayant pris ruiné, épars, dissous, il va lui rendre l'équilibre et la prospérité. Il fait d'abord rentrer dans le devoir quelques grands vassaux, les ducs d'Alençon et de Bourbon, Dunois, Chabannes. Guidé par Richemont, il se donne une cavalerie régulière par la création de compagnies d'ordonnances soldées, une nombreuse infanterie par l'institution de la milice des francs archers, la première artillerie de l'Europe grâce à des ingénieurs, les frères Bureau. Ainsi dispose-t-il non seulement d'une bonne armée, mais d'une ample police. Il réorganise le Parlement, les tribunaux, les rouages financiers, rend perpétuelle la taille et les aides devenues trop lourdes, mais pour lesquelles il accorde beaucoup d'exemptions. La pragmatique sanction de Bourges constitue l'Église gallicane, presque indépendante des papes et, par là, tout au roi. Tout, dans ces mesures, concourt à fortifier le pouvoir, à le mener vers l'absolutisme. Les états généraux dont on se défie ne sont plus réunis. La noblesse est matée, la bourgeoisie caressée, encore que tenue de court. Mais avec l'ordre, la sécurité, la France, en peu d'années, retrouve sa vigueur. Les jachères reculent, les récoltes se multiplient. Plus de chômeurs chez les artisans. Le commerce est en pleine prospérité. Le pays entier se couvre de maisons neuves et de somptueux édifices publics, églises ou palais. Vers la fin de sa vie, Charles VII régnera sur l'état le plus riche et le plus puissant de la chrétienté. Pareille œuvre n'est pas due à lui seul. Jamais prince ne fut mieux servi, n'eut d'entourage si heureux. Parmi les meilleurs auxiliaires de Charles, on doit compter avec le connétable de Richemont, Jean Juvénal des Ursins et son frère Guillaume, chancelier de France, enfin et surtout Jacques Cœur qui remplit le trésor, relève la marine, fonde de nombreuses industries et finit misérablement, ruiné, trahi, banni par son maître à la suite d'une basse intrigue de cour. Bonne tête mais piètre cœur, Charles verra obscurcir ses dernières années par l'hostilité de son fils Louis, trop pressé de régner, qui s'installe fortement en Dauphiné, complote contre le pouvoir et même la vie de son père, et finit par se réfugier auprès de son bel oncle Philippe le Bon, dont il reçoit pension et encouragement. Quoique tant de succès ait relevé si haut la couronne de France, la puissance de la maison de Bourgogne, née de l'impolitique coutume des apanages, demeure pour elle un constant et terrible danger. Maître des pays les plus riches d'Europe, depuis la Suisse jusqu'aux îles de Frise, Philippe le Bon cherche à reconstituer l'ancienne Lotharingie. Il ne lui manque que la Lorraine pour édifier un royaume d'un seul tenant. Charles VII l'a contrecarré là avec adresse. Il s'est imposé comme protecteur aux villes de Toul et de Verdun, a soutenu contre le Bourguignon son beau-frère et allié René d'Anjou, héritier de la Lorraine. Il lui a disputé le Luxembourg, tout cela sans guerre déclarée. Mais entre les deux maisons, la rivalité demeure âpre et ardente. Quand il meurt en 1461, d'un abcès à la gorge, Charles, tout victorieux qu'on le nomme, est bourrelé d'inquiétude. La France refaite peut encore se défaire. Par fortune, le génie de la race capétienne lui a préparé un successeur qui va, non sans traverse, surmonter ce dernier péril et détruire l'ennemi attaché à son flanc. Les imprudences de Louis XI. C'est une figure fort étrange que Louis XI. Bien moins un prince qu'un bourgeois d'instinct attaché au réel, au profit, ouvert toutefois aux vues d'avenir. À 38 ans, laid, maladif, cagneux comme son père, assez brave mais répugnant au combat, vêtu en pauvre, il ne se plaît qu'avec les petites gens, et les seigneurs. Diplomate astucieux, trompeur émérite, il croit tout obtenir par cautèle et chicane. Nulle moralité, nul scrupule. Il est capable du pire, pour en venir à ses fins. Ses fins, heureusement, viseront à la grandeur et à la sécurité de la France. Son ambition sera nationale. S'il n'est pas par soi-même, comme on l'a trop complaisamment répété, un souverain de génie, le sort, vers la fin de son règne, surtout lui sera si favorable que Louis XI en prendra dans la lignée capétienne une place éminente, celle d'un des rassembleurs essentiels de la monarchie. Il se fait sacré à Reims et entre à Paris sous le patronage fastueux de Philippe le Bon. Près de son chétif neveu, le duc paraît le vrai roi. Louis disgracie aussitôt les conseillers de son père, s'entoure d'hommes obscurs, souvent douteux. Ses débuts sont maladroits, 4 ans suffisent à le faire détester partout. En 1465, au nom du bien public, une ligue redoutable se dresse contre lui, formée par la plupart des grands féodaux, encore bien puissants. L'âme en est Charles le Téméraire, fils de Philippe le Bon. Il n'a en vue que le dépècement de la France. « J'aime tant le royaume, dit-il, qu'au lieu d'un roi, j'en voudrais voir 6. » Adversaire vraiment terrible que cette espèce de cœur de lion ressuscité, le dernier des chevaliers de roman, ce grand jouteur brun et poilu, aux yeux durs et clairs de fauve. Il va durant 15 ans arracher l'étoile que tisse et retisse inlassablement celui qu'il nomme avec mépris l'universel araignée. Souvent par sa violence, il aura le dessus, mais son ambition hasardeuse à la fin le perdra. Le roi Coursus se rebelle et les rencontrera à Montlhéry. La bataille reste confuse. La gauche de l'armée royale est enfoncée, mais l'aile gauche des féodaux commandés par le comte de Saint-Pol est battue et Louis, à sa poursuite, entre dans Paris. À demi vainqueur, il se résout à traiter plutôt que de hasarder un nouveau combat contre les coalisés dont les forces s'accroissent. Il rend aux téméraires les villes de la Somme, donne à son frère la Normandie, dispense le duc de Bretagne de l'hommage. Saint-Pol obtient la charge de connétable. Tous les seigneurs reçoivent argent, terre, dignité, c'est une curée. Le téméraire. Les féodaux, par cette paix, semblent redevenus les maîtres. L'œuvre patiente de Charles VII est à bas. Louis va tenter par diplomatie de regagner le terrain perdu. Il oppose ses adversaires les uns aux autres, reprend la Normandie à son cadet pour lui donner la Guyenne et oblige le duc de Bretagne à capituler. Mais il commet une faute majeure, une folie, en allant visiter à Péronne Charles le Téméraire, devenu duc de Bourgogne par la mort de son père, alors qu'il vient d'inciter à la révolte les Liégeois. Le téméraire, sourd aux paroles dorées de son hôte, l'emprisonne dans une grosse tour. Le renard, tombé dans les pattes du loup après quelques jours d'angoisse, réussit à acheter plusieurs conseillers du duc et d'abord le jeune et subtil Philippe de Comines. Le téméraire, influencé par eux, renonce à découronner le roi et se borne à lui imposer un traité honteux. Louis n'est pas à une honte près. il cède la Picardie à Charles et l'accompagne à Liège pour réduire la ville qui est sous ses yeux odieusement pillée et brûlée. Dès qu'il se retrouve en sûreté, Louis isole le duc de Bourgogne de ses alliés et réunit à Tours les états généraux pour leur faire annuler la paix de Péronne et déclarer le téméraire coupable de félonie. Ainsi couvert, il envoie son armée conquérir les villes de la Somme. Une fois de plus, à l'appel du Bourguignon, les grands vassaux se rassemblent. La campagne est indécise. Le téméraire, après de copieux massacres à Roye, Montdidier, échoue devant Beauvais, où les habitants lui opposent une héroïque résistance sous la conduite de Jeanne l'aînée, dite Jeanne Hachette, du nom de l'arme dont elle se sert si bien. Le furieux doit marquer le pas, accepter une trêve. Le téméraire à cette heure pense surtout à l'Allemagne. Maître de l'Alsace, acheté à Sigismond de Habsbourg, il veut s'accroître dans les pays voisins pour relier ses états et composer ce grand-duché d'Occident qui fera revivre la Lotharingie. Le téméraire, après avoir conquis la Lorraine, s'est tourné contre les cantons suisses avec une armée largement pourvue d'artillerie. Les Suisses aidés par les subsides français le battent par deux fois à Grandson et à Morat. La Lorraine en profite pour se soulever. Foudrage, Charles court donner l'assaut à Nancy. Il périt là de façon obscure dans une tempête de neige, frappé sans doute à l'instigation du mercenaire italien Campobasso qu'il avait souffleté. On retrouve le lendemain dans un étang glacé son cadavre déchiqueté par les loups. Triomphe de Louis XI. La date est essentielle dans l'histoire de France. Cette mort change tout. La roue de la fortune, si longtemps immobile, vient de faire un tour complet en faveur de Louis. Le téméraire disparu, il va pouvoir triompher de la féodalité. Le grand aventurier ne laisse en effet qu'une fille pour hériter de tous ses états, Marie de Bourgogne, qui épouse bientôt le beau Maximilien d'Autriche, fils de l'empereur. Cette union va rattacher à l'Allemagne plusieurs provinces purement françaises. Trois siècles de guerre en sortiront. Du moins, après une lutte incertaine contre Maximilien, Louis réunit-il définitivement à la couronne la Picardie et la Bourgogne, réputées fiefs mâles et par là intransmissibles à une femme. L'Artois et la Franche-Comté resteront entre ses mains en vertu du droit de garde noble, comme dot de la petite Marguerite d'Autriche, fille de Maximilien et de Marie, fiancée dès le maillot au dauphin. Son bonheur, son surprenant bonheur, ne quitte plus Louis XI. La mort du roi René lui vaut l'Anjou et bientôt le Maine, la Provence, avec des droits sur le royaume de Naples, dont il est trop avisé pour se prévaloir. Cinq provinces réunies ainsi au domaine, le roi de France n'a plus en face de soi que trois grands vassaux, incapables de faire bloc, les ducs de Bretagne, d'Orléans et de Bourbon. La haute féodalité agonise, la plupart des seigneuries qui étoilaient le domaine royal sont absorbées ou hors d'état de nuire. Jusque-là ouvert et épars, le royaume a accompli son unité. En dépit de ses fautes, même de certains forfaits, ce roi de basse mine, tortueux et secret, qui vit à Plessis-les-Tours, en ombre malade, entre son confesseur, son médecin, quelques hommes de main utiles aux justices sommaires, achève son règne en grand souverain. Après s'être montré si convoiteux de vivre, selon le mot de Comines, s'être couvert de reliques pour allonger ses jours, et avoir invoqué tous les saints dans des sueurs misérables, quand arrive vraiment la mort, Louis la regarde avec courage et sait finir en chrétien. Son dernier mot à son jeune fils, le pain sans phare, qui ne sait dissimuler, ne sait régner. À cet égard, mais à d'autres aussi, comme dit Comines, à tout prendre, c'était un roi. La fin du Moyen-Âge. Ici, semble-t-il, peut se placer la fin du Moyen-Âge, et le crépuscule de la féodalité qui a engendré cette nuit affreuse de guerre civile. Basée sur la foi, elle a rendu jadis de précieux services, mais elle a oublié sa mission, protéger les faibles, et dès lors, il est temps qu'elle disparaisse, pour laisser place à une organisation nouvelle. Peuple et monarchie appuyés l'un sur l'autre se débarrassent de cette écorce rude qui a sauvegardé jadis le développement intérieur de la nation, mais qui maintenant la comprime et la blesse. Pour la défense du pays, son administration, son progrès social, à l'autorité des féodaux, se substitue l'autorité du roi. C'est en France que la transformation politique est la plus rapide et la plus nette. Mais on l'observe aussi dans d'autres États. l'Europe, au XVe siècle, opère une complète métamorphose d'esprit et de forme. L'ère des croisades éclose. L'esprit de chrétienté disparaît. Les nations sont nées. L'empereur a perdu la plupart de son prestige. L'Église exerce une influence plus diluée sur les intelligences qui s'émancipent. La scolastique semble arbitraire et sans suc. L'Antiquité qu'elle voilait, qu'elle déformait, reparaît dans sa vérité, sa jeunesse immortelle. Artistes, écrivains se penchent sans interprète sur les œuvres originales de la Grèce et de Rome. De grandes découvertes bouleversent et prolongent le monde moral et matériel. L'imprimerie, inventée par Gutenberg, met le savoir à la portée de tous. Les voyages des Vénitiens, des Portugais, des Espagnols révèlent l'Extrême-Orient, le littoral de l'Afrique et font surgir du vide marin, avec Christophe Colomb, le double continent des Amériques. La Renaissance commencée en Italie gagne les Pays-Bas, la France, l'Allemagne, l'Espagne. Dante, Pétrarque et Boccace l'ont préparé dès le XIVe siècle dans la poésie, Giotto et Orcagna, comme notre école d'Avignon, dans l'art. Mais le XVe fleurit exubérant comme un jardin d'été avec l'Arioste, le Tasse, Ghiberti, Donatello, Léonard de Vinci, qui seront suivis bientôt par Michel-Ange et Raphaël. L'Italien Machiavel, le Hollandais Erasme, l'Allemand Mélenchon labourent et ensemencent librement le champ des idées. Le Français Commines est déjà un historien complet. Les Flamands Van Eyck et Memling, les Allemands Dürer, Cranach, Holbein, le Français Jean Fouquet montent au sommet de la peinture. Un âge nouveau, partout, s'épanouit, avec des pensées nouvelles, un horizon infiniment plus vaste, dont la ligne ne cessera plus, siècle après siècle, de reculer. Le mirage d'Italie. Le fils de Louis XI, Charles VIII, malingré paresseux d'esprit, n'a que 13 ans quand il reçoit la couronne. Son père a confié la régence à sa fille Anne, mariée à un cadet de la maison de Bourbon, le sire de Beaujeu. Cette femme, la moins folle femme de France, qui fut volontaire, appliquée, encore que parfois trop impulsive, va dans cette transition difficile poursuivre l'œuvre de Louis dont elle possède les vues et sait les desseins. Les seigneurs dont elle fait peu de cas ont recours alors à la rébellion ouverte sous la conduite du duc d'Orléans, héritier de la couronne, et du duc de Bretagne. C'est ce qu'on appelait la guerre folle. Le sentiment public, nettement, la condamne. En vain Maximilien envahit-il l'Artois. Ses sujets de Flandre se soulèvent. Les troupes royales sont victorieuses à Saint-Aubin-du-Cormier. Le duc de Bretagne se soumet. Il meurt presque aussitôt, laissant le duché à sa fille Anne. Maximilien d'Autriche l'épouse en secret par procuration. La prouesse est tentante. Elle est au point qu'Anne de Beaujeu, en grande hâte, obtient l'annulation du mariage et fait de la jeune duchesse une reine de France. Cette union, où l'on a vu le plus beau succès de la régente, est au contraire une faute. Car elle a pour corollaire le renvoi de la petite fiancée de Charles VIII, Marguerite d'Autriche, pourvue de la partie française de l'héritage de Bourgogne, qui nous eût donné tout de suite nos frontières normales au nord et à l'est. La Bretagne, tôt ou tard, fut revenue à la France. Elle ne pouvait plus échapper à la force d'attraction dégagée maintenant par la monarchie capétienne. L'impatience d'Anne de Beaujeu a eu là des conséquences politiques dont nous allons souffrir longtemps, et qu'une prévoyance plus haute eût évité. Charles VIII, à présent majeur, est maître d'un état dense et vivace et de la meilleure armée de ce temps. Il devrait tourner ses forces vers le Rhin. Charles VII en a montré la route. C'est la tradition capétienne. C'est aussi la sagesse. Mais ce jeune homme n'est point sage. Les Valois, au reste, sont toujours habités d'une faiblesse, d'une chimère. La sienne sera l'Italie. Au lieu de parfaire la France, il va l'engager, et trois rois après lui, dans la plus inutile et coûteuse aventure. Nourri de romans de chevalerie, cet adolescent petit, disgracieux, probablement épileptique, pourtant expert au jeu de force, rêve, en invoquant ses droits sur le royaume de Naples, de conquérir la péninsule et de relever à son profit le trône impérial d'Orient. Autour de lui, une noblesse infatuée l'excite. Ludovic le Mort, duc de Milan, l'appelle. Charles VIII n'y résiste pas. Pour avoir les mains libres, les Tourneaux rend au roi d'Aragon le Roussillon et la Cerdagne, engagés à Louis XI. Il restitue à Maximilien, devenu empereur, l'Artois et la Franche-Comté. il donne 745 000 écus d'or, somme énorme, au roi d'Angleterre. Ayant vidé le trésor et sacrifié ses belles provinces françaises, il passe les monts avec des troupes superbes et une imposante artillerie. À Pise, à Florence, il est accueilli avec transport. Le roi de France, écrit Machiavel, prit l'Italie avec la craie dont ses fourriers marquaient les portes. Rome boude. Il force le pape Alexandre VI à lui remettre son fils, le fameux César Borgia, en otage et entre sans résistance à Naples, où il s'adjuge la couronne coiffée jusque-là par Ferdinand d'Aragon. Les Français se rengorgent et se laissent glisser aux dangereuses délices italiennes. Cependant, comme Charles prépare sa descente en Orient, le fragile édifice s'écroule. Le pape, le duc de Milan, le roi d'Aragon, s'unissent contre lui par la Ligue de Venise. Charles VIII, son armée fondue, doit revenir sur ses pas dans l'hostilité générale. Il culbute à Fornoux les soldats de la Ligue et rentre en France, sans argent et presque sans troupes, mais la vérité non sans butin. Au total, l'expédition était fâcheuse. Tout médiocre qu'il soit, Charles en a conscience. Il tâche de régner utilement et s'acquiert ainsi quelques mérites. Il meurt, à peu de temps de là, au château d'Amboise, de s'être frappé le front contre une porte trop basse. Fin d'étourdi. Nous sommes en 1498. Le père du peuple. Sans enfant, il laisse le royaume à son beau-frère et cousin Louis d'Orléans, naguère rebelle et depuis qu'il fut pardonné, obéissant. Ce prince d'âge moyen, las de corps, a l'âme loyale et bonne. Il aime le peuple et s'intéresse à son sort. En retour, il en sera profondément aimé. Louis XII répudie par la complaisance du pape, sa femme, la boiteuse Jeanne, fille de Louis XI, douce sainte qui, par humilité, ne résiste pas, et il épouse Anne de Bretagne, veuve de Charles VIII, qu'il aimait depuis longtemps. Hérité des droits de son prédécesseur sur Naples, Louis tient de sa grand-mère Valentine Visconti d'autres droits sur le Milanais, usurpés par les Sforza. Lui aussi cède au mirage italien. Avec une armée moins brillante mais plus solide que celle de Charles, il gagne le Piémont et entre à Milan. Il conquiert ensuite aussi aisément le royaume de Naples qu'il partage avec le roi d'Espagne, Ferdinand le catholique. Dupé par celui-ci, Louis perd successivement toutes ses conquêtes, bientôt même la France est envahie au nord par le roi anglais Henri VIII, vainqueur à Guingamp, au centre par les Allemands et les Suisses qui assiègent Dijon. Louis XII, voyant la partie perdue, négocie la paix. Il achète Henri, toujours à vendre, lui abandonne Tournai, conclut des trêves avec l'empereur et le roi d'Espagne. Peu après, il meurt, pleuré de toute la France, que malgré le fait de ses guerres, il a gouverné avec bienveillance et équité. Le titre de père du peuple, dont il a été salué par les États généraux de 1506, le plus beau pour un prince et qu'il méritait, a fait oublier ses erreurs.